cours de philosophie du vivant par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeudard, le 3 mai 96.
On découvre l'être, on découvre l'âme comme source des opérations vitales. Pourquoi ne peut-elle pas être source propre de la diversité des opérations vitales? Est-ce parce que on la découvre comme source d'unité?
Qui fait ça. Vous pouvez pas le nier, ça.
et cette évidence de l'induction de l'âme. C'est parce que vous n'avez pas assez l'évidence de l'induction de l'âme. Et vous posez l'âme comme source de vie. Vous dites ensuite que l'âme est substance. Oui, principe d'être, parce que mes opérations vitales, c'est mon être. C'est sûr. Vous passez de la vie à l'être. Et vous le savez très bien que ce n'est pas la même chose. Et que les distinctions au niveau de la vie ne sont pas les mêmes que les distinctions au niveau de l'être. Au niveau de l'être, vous distinguez substance et accident. Au niveau de la vie, les opérations sont quelque chose d'immanent à ma vie et font partie de l'essence même de ma vie. Ce n'est pas accidentel. Ce n'est pas accidentel pour moi d'être intelligent. C'est essentiel. Ce n'est pas accidentel pour moi de manger. C'est essentiel, c'est fondamental. Donc, voyez, la distinction substance et accident, elle reste logiquement en vous, pas métaphysiquement. Si elle était saisie au niveau métaphysique, vous ne la transporteriez pas au niveau de la vie. C'est parce que vous la pensez au niveau logique, alors vous la transportez partout. Parce que la logique est partout. Voyez, c'est le glissement de la métaphysique à la logique qui fait cette confusion. Et ça, c'est la scolastique. La scolastique a tout vu par la logique. Elle n'a plus compris ce que c'était que la métaphysique, elle n'a plus compris les différents niveaux. Parce qu'elle est tombée dans une vision trop univoque. Et dès qu'on tombe dans une vision univoque, la logique reprend le dessus. Bon, alors, vous voyez cette diversité, vous voyez l'unité, et vous voyez la diversité. Alors, il faut bien expliquer à la fois l'unité et la diversité. Ce n'est pas le même principe qui explique l'unité et la diversité. Une fois que vous avez compris l'unité de l'âme, vous voyez les niveaux de vie. Le niveau de vie végétative, sensible, spirituel, sont des niveaux différents de vie. Ce n'est pas les mêmes niveaux. Et alors, pour expliquer ces niveaux de vie, vous voyez qu'il y a une complexité. Ma vie végétative n'est pas simple. Alors, j'essaie de comprendre cette diversité. Je dis que cette diversité est une diversité vitale. Ce sont mes opérations. J'en suis la source. La source première, c'est l'âme. Mais de l'âme émaner certaines puissances qui sont sources immédiates, propres et immédiates de ma nutrition, de ma croissance, de la vie de fécondité. Ce sont des opérations vitales qui sont diverses. L'une implique une assimilation vitale, l'autre implique une croissance, l'autre implique... Il y a trois aspects, trois moments qui structurent les vies. Et ces trois moments impliquent donc des principes qui ne sont pas le principe premier de la vie, mais qui sont des principes d'opération. Les opérations sont diverses, et les opérations sont multiples. Je ne suis pas tout le temps dans mon opération d'intelligence. Il y a des moments où je pense moins, des moments où je suis distrait. L'imagination l'emporte. Il y a des moments où j'aime moins. Des moments où ma vie sensible s'arrête, je ferme les yeux pour mieux réfléchir. Donc, tandis que l'âme est tout le temps en acte, ses opérations immédiates et l'opération fondamentale, mais propre. L'âme est opération propre de toute ma vie, puisque c'est elle qui fait l'unité de ma vie. Donc elle est présente partout. Je crois que votre difficulté, c'est que vous ne comprenez pas la présence immanente de l'âme à travers toutes les facultés. Oui, on fait une distinction, parce qu'on est dans l'analyse, mais au niveau de l'exercice vital, l'âme est présente dans ma vie nutritive, dans ma vie végétative, elle est présente dans ma vie sensible, elle est présente dans ma vie intellectuelle. C'est l'unité vitale et immanente. Mais je distingue, je pousse l'analyse. Oui, l'analyse se fait de plus en plus. Ce qu'il faut, c'est bien respecter l'ordre de l'analyse. Je saisis d'abord l'âme, puis je saisis les niveaux de vie. Puis je saisis dans les niveaux de vie, la complexité de ces niveaux de vie et les diverses facultés, les diverses puissances pour expliquer, pour analyser. C'est l'analyse que je fais de mes diverses opérations vitales. Donc vous voyez comment je passe de l'unité à la diversité. Je passe de la diversité à l'unité. Et l'unité et la diversité ne se fait pas de la même façon au niveau de l'être et au niveau de la vie. Si je confonds les deux, ce que fait un peu le néoplatonisme, alors à ce moment-là, je ne vois plus du tout de la même façon le point de vue des opérations vitales. Au fond, je rattache tout à l'âme. Je télescope, tout simplement, un niveau d'analyse. C'est pas faux, mais c'est pas poussé. L'analyse n'est pas poussée jusqu'au bout, c'est un manque de précision. Ce que vous pouvez dire, c'est suffisant. L'âme explique tout. Oui, mais si vous voulez pousser l'analyse, vous voyez que s'il y a cette chose très curieuse, c'est que dans mes opérations vitales, je ne suis pas toujours en acte. Tant que je suis toujours en acte au niveau de mon âme. Mon âme ne dort pas. Tandis que vous avez en vous une capacité de dormir. Voyez, alors quand vous êtes néoplatonicien, vous n'arrivez plus à dormir. Donc tout est insomnie, c'est votre côté néoplatonicien. Si vous étiez plus aristotélicien, vous n'auriez pas d'insomnie. L'âme ne dort pas, donc c'est pour ça que c'est difficile de dormir. Alors c'est votre âme qui mange, c'est votre âme qui pense, c'est votre âme qui veut tout le temps. Attention, l'âme est toujours en acte au niveau substantiel. Elle n'est pas toujours en acte au niveau de mes opérations diverses. Et je respecte la diversité de ces opérations et l'unité de mon âme. Je veux dire, on glisse très vite au néoplatonisme, vous savez. Au fond, le néoplatonisme, c'est la facilité. C'est un manque d'analyse. Fondamentalement, le néoplatonisme n'analyse pas, il décrit. Or, la description, fait une petite distinction entre la spécification et l'exercice. Vous décrivez les opérations. Quand vous analysez, vous voyez la qualité, le caractère spécifique, différent de chacune des opérations. Et vous voyez l'unité d'exercice. L'unité d'exercice vient de l'âme. C'est mon âme qui me rend attentif. C'est mon âme qui vous parle. Et mon âme s'aperçoit que la voix est faussée, qu'il y a un bras en moins, que des choses comme ça. Qu'on est obligé de prendre une canne pour compléter son pied. Des choses comme ça. Ça, c'est l'âme. L'exercice, c'est l'âme. Je m'applique. Alors vous allez dire, c'est la volonté. Oui, c'est mon âme à travers ma volonté qui m'applique. il peut vous distinguer progressivement. Et dès que vous analysez, vous distinguez l'ordre de spécification et l'ordre d'exercice. Tandis que dans la méthode phénoménologique moderne, la spécification se donne à partir d'exercices. Si la spécification se donne à partir de l'exercice et que l'exercice est un, vous n'avez plus de distinction. Et tout se ramène à la vitalité de l'âme. Oui. Il ne faut pas considérer le néoplatonisme comme un ennemi. Il faut bien le caresser. Le néoplatonisme, parce qu'on est tous un peu néoplatoniciens. Dès qu'on est fatigué, quand on est très jeune, oui, le manque de maturité vient du néoplatonisme qui est en nous. Alors on reste tout le temps un jeune, un élan vital. C'est tellement gentil de voir le gosse qui danse. Il y a des gens qui dansent toute leur vie. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à analyser, parce que quand vous dansez, vous n'analysez pas. C'est tellement beau la description, c'est tellement beau les gestes, c'est tellement... Il reste perpétuellement dans le mouvement. C'est uniquement l'exercice. Ils n'analysent pas. Ils sont furieux même quand on analyse. Ils disent, ah, vous tuez la vie. Mais non. C'est l'analyse, c'est l'intelligence qui l'a fait. C'est l'intelligence qui l'a fait. L'analyse. L'analyse est au niveau du tiesti. Et la complexité de l'exercice au niveau du pouce. Le néoplatonisme ne fait que décrire, il n'analyse plus. Alors c'est beaucoup plus agréable de ne pas analyser. Mais le grand inconvénient, c'est que vous n'y comprenez plus rien du tout. Vous décrivez. Alors on comprend très bien que quand on décrit, si on est un tout petit peu artiste, on formalise la description et on la rend artistique. Formaliser la description, c'est le passage de l'art. Alors, la logique peut même formaliser la description, puisque c'est un art. Alors, il y a différents niveaux de formalisation. Il y a le niveau logique, c'est le plus commun. Mais la formalisation n'est pas l'analyse. Puisque ça se fait à partir de la description. Alors on formalise. Parce qu'on a un besoin de formaliser. Pourquoi, dans votre intelligence, vous passez du concret à l'abstrait? Pourquoi avez-vous inventé, ou avons-nous inventé, puisque je l'ai fait avec vous, inventé blanc, blancheur? Pourquoi vous dites blancheur? Alors que vous n'avez aucune expérience de la blancheur. Vous n'avez qu'une expérience du blanc. Vous ne pouvez pas décrire la blancheur. Essayez de décrire la blancheur. Impossible. Essayez de décrire la vie. Impossible. Mais vous décrivez un être vivant à 1000 pattes. C'est un être vivant, il a 1000 pattes. Ça, c'est de la description. Et la méthode phénoménologique est une méthode descriptive. Merleau-Ponty souligne ça très fort. Et il a raison. C'est une méthode descriptive intérieure. De mes expériences intérieures, je décris ce que c'est que l'amour. Mes états particuliers. J'aime, je désire, j'ai soif, je jouis, description. Il y a des descriptions plus extérieures. Alors c'est plus la phénoménologie. Eh bien, de fait, le néoplatonisme décrit, mais n'analyse pas. La description ne fait plus la distinction entre le point de vue de l'exercice et du mouvement, mais on formalise. C'est pas du tout la même façon, c'est pas du tout la même chose de formaliser, d'analyser. Alors ce serait très intéressant, regardez ça. La formalisation, c'est un besoin de classification. L'analyse n'est pas une classification. L'analyse, c'est creuser pour regarder le caractère spécifique de la réalité. C'est différent. Oui, il faut arriver petit à petit à avoir cette conscience de ce que représente le réalisme aristotélicien qui, à partir de l'expérience des réalités existantes, désire analyser. Et j'analyse à partir des interrogations. Et les interrogations me permettent de saisir les diverses causalités. Et les causalités me mettent en présence de ce qui est premier. C'est ça, analyser. Analyser, c'est chercher ce qui est premier. Dans tel ordre, dans l'ordre de la matière, dans l'ordre de la détermination, dans l'ordre de l'efficience, dans l'ordre de la finalité, dans l'ordre de l'exemplarité. Vous voulez chercher ce qui est premier, puis ce qui est second. Forcément. Si on cherche ce qui est premier, on découvre ce qui est second. Toujours. Dans l'ordre de la description, vous pouvez bien chercher un ordre, mais vous ne cherchez jamais le premier. Vous mettez un ordre. Et ça vous suffit. Il y a des constantes. Si A, B. Si je pose A, il y aura B. Donc je lis. C'est des liens de nécessité. C'est des relations. C'est plus des principes. Le principe, c'est la saisie de ce qui est premier. Tandis que saisir la relation, c'est saisir des constantes. C'est toute la différence, voyez, entre la science et la philo. La science est au niveau des relations, et des relations nécessaires. Et on essaie de saisir les constantes. La philo, au contraire, elle analyse. Elle pose des questions, des interrogations. Donc, alors, vous avez dit aussi que les facultés étaient au niveau du pos. Oui. Faisons attention, je quitte l'analyse fondamentale de l'âme, principe, source, principe fondamental de ma vie. Puis je découvre les niveaux de vie. Les niveaux de vie, c'est déjà du pos, la vie végétative, une réalité existante. Ma vie passionnelle, c'est une réalité existante. Ma vie intellectuelle, c'est une réalité existante. C'est un pos. Un pos très fondamental, mais c'est quand même un comment. Je vis comme ça. Il y a des êtres qui ne vivent qu'au niveau végétatif. C'est sûr. Il y a des êtres qui ne vivent qu'au niveau passionnel. Êtres qui, de temps en temps, émergent et vivent au niveau spirituel. C'est le pos. Dans ce pos, qui est complexe, j'analyse. Oui. Et je découvre la faculté, qui n'est pas au même niveau que l'âme. Après, j'étudie le lien qui existe entre l'âme et la faculté. Et je dis que la faculté, que nos facultés nutritives, de croissance, de procréation, ces facultés se rattachent à l'âme et se rattachent d'une manière naturelle. C'est que l'âme est source de ces facultés et par ces facultés est source des opérations. Oui, c'est un autre regard. Mais je sais que c'est un autre regard, c'est un autre niveau. Mais dans le pose, j'analyse. Et j'analyse ma vie végétative. Et dans ma vie végétative, je saisis mes diverses opérations. la nutrition, la croissance, la vie, la procréation. J'analyse. Et en analysant, je découvre les principes. Donc faisons attention. Les facultés, ce n'est pas des pauses, c'est vraiment le fruit d'une analyse. Mais à l'intérieur d'un certain pause dont je suis conscient, je découvre autre chose quand je veux découvrir la diversité de ma vie végétative que lorsque j'essaie de saisir l'unité de l'homme vivant. Regardez l'interrogation pour comprendre les niveaux. C'est l'interrogation qui me permet de connaître les niveaux. L'interrogation est l'analogue de l'hypothèse en recherche scientifique. Dans une recherche scientifique, il y a une hypothèse. Il y a une hypothèse de recherche. Quelqu'un qui fait une thèse au niveau physique, au niveau chimique, il y a une hypothèse. Et les professeurs intelligents donnent des hypothèses où il y a vraiment quelque chose qu'on va découvrir. Les professeurs qui sont encore trop dans la recherche peuvent donner comme sujet de thèse une hypothèse sans issue. Alors on voit des pauvres étudiants qui étudient pendant 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, découvrent rien. Qui lui a donné une recherche, ou bien qui a accepté une recherche, n'a pas vu, sans issue. Voie sans issue. Qu'est-ce que ça veut dire une voie sans issue? Il y a des voies sans issue dans la recherche. Cherchez, allez chercher, cherchez. Le Seigneur dit cherchez, vous trouverez, mais les voies sans issue, on cherche, on ne trouve pas. Mais ça, c'est pas Jésus qui le dit, parce que Jésus donne les voies. Lui, la voie sûre. On trouve toujours, mais dans les possibles, voie sans issue. Oui. Vous avez mal posé l'hypothèse, vous avez mal posé l'interrogation. L'interrogation, c'est l'âme de la recherche. Savoir poser la question, c'est capital. Et ça, c'est très important. Et plus on est en face d'une réalité complexe, plus l'interrogation bien posée est importante, mais en sachant à quel niveau de recherche vous êtes. Il faut, au plan philosophique, à chaque instant pouvoir dire « Je suis à ce niveau, voilà ce que je recherche, voilà ce que je trouve. » Autrement, vous allez à l'aveuglette, alors vous décrivez. Très bien de décrire. Il y a des thèses où on ne fait que décrire, sans aucune analyse. Et il y a des professeurs qui ne sont pas suffisamment intelligents, qui acceptent des thèses de description. Alors ce n'est pas une thèse. Ils décrivent. Et ils décrivent ce qui s'est passé chaque jour, ce jour-là, voilà. Cela. Chaque jour, il y a eu quelque chose de nouveau. On n'a rien trouvé. On a décrit. Décrire n'est pas trouvé. Décrire, c'est d'être spectateur. Je décris. Je suis spectateur. Je regarde. Mais ce n'est pas suffisant pour l'intelligence. L'intelligence veut connaître. Et connaître, c'est saisir ce qu'il y a de premier. En saisissant ce qu'il y a de premier, je saisis ce qu'il y a de second. Et je commence à comprendre l'ordre des choses. Donc voyez-vous, comment je puis dire que les facultés sont au niveau du pouce, d'un certain pouce, celui des niveaux différents de vie. Alors, jusque maintenant, nous avons vu la vie végétative. Nous allons commencer aujourd'hui la vie sensible. Et vous allez voir que l'analyse, et là c'est ça qui est très intéressant, sa vie, végétative, vie sensible. Et ce qui est très curieux, c'est que sa vie, vie spirituelle, les trois niveaux de vie. Ces trois niveaux représentent les trois manières de l'homme vivant. L'homme vivant vit à ces trois niveaux. Et vous pouvez être lucide de savoir que écouter un cours, c'est au niveau de la vie. Écouter un cours, est-ce au niveau de la vie sensible ? Oui, si vous aimez passionnément le professeur, alors vous l'écoutez. Oh, je me souviens de quelqu'un qui suivait un cours. Il est admirable, ce beau, ce merveilleux. Mais qu'est-ce qu'il y avait dedans ? Ah, j'en sais rien. Donc à ce moment-là, on le vit au niveau sensible, au niveau passionnel. Le théâtre, il y a des gens qui le vivent au niveau purement passionnel, pas du tout artistique. Puis il y a les artistes. Et les différents niveaux de vie, très importants. Et dans ces différents niveaux, vous regardez les diverses opérations. Les diverses opérations. Et en analysant ces diverses opérations, vous trouvez les facultés, les puissances. Mais ce qui est à la racine des trois, c'est l'âme. Il faut bien voir ces différents niveaux. Alors, nous regardons maintenant le niveau de la vie sensible, qu'on peut appeler la vie animale. C'est ma vie animale, ma vie sensible. Alors, comme on est respectueux, on dit sensible. C'est plus respectueux, n'est-ce pas ? Autrement, vous dites, oh, quel bel animal ! Il vit sa vie sensible, admirablement. Mais il n'atteint jamais la vie intellectuelle. La vie spirituelle, non, absolument. C'est fermé pour lui. Il reste à sa vie passionnelle. Il est un animal de premier ordre. Parce qu'il vit sa vie sensible, admirablement. Il est toujours au galop. Tout le temps, tout le temps. Il bouge tout le temps. Sa vie sensible. Dans la vie sensible, je distingue tout de suite ce qu'est la connaissance sensible. Je distingue ce qu'est les passions. Alors je vois tout de suite une nouvelle distinction que je n'avais pas faite. C'est ça qui est intéressant. Vous voyez, quand on réfléchit, quelles sont les distinctions propres de la vie végétative ? Quelles sont les distinctions propres de la vie sensible ? À chaque niveau, il y a des distinctions propres. Il ne faut surtout pas transposer les distinctions d'un ordre donné à un autre. C'est là les confusions. Et toutes les erreurs proviennent de ça. Oui, c'est univocité. Je découvre dans la vie végétative les trois grandes opérations. Assimilation, croissance, procréation. Il y en a trois. Alors, si je suis univoque, je suis tellement content d'avoir découvert ça dans ma vie végétative. Je vais transposer univoquement ces trois dans la vie sensible. Alors, je vais dire, on trouverait, il y a des analogies. Oui, attention, dans ma vie sensible, je vais trouver. Il y a les sensations. Les sensations, c'est l'assimilation. C'est ma nutrition. Je me nourris. C'est vrai. Quand vous regardez l'écarlate d'une rose merveilleuse, ce velouté étonnant, vous nourrissez votre œil. Hein ? C'est évident. Il se nourrit. Merveilleux. Oh, j'aimerais voir tout le temps cette fleur devant moi. C'est mon petit déjeuner. Sensible. C'est évident, mais c'est quand même, tellement ça me repose tellement. croissance. Oh, la croissance, ça doit être l'imagination. Alors je pars dans la croissance imaginative. Je vais aller tout le temps. Oui, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. La croissance. Elle se fait à partir de la nutrition. Oui, c'est tout à fait ça. Mon imagination est dépendante. Oui. Alors je vais expliquer toute ma vie. Ça. Et puis alors, la vie passionnelle. Oh, la vie passionnelle, c'est l'amour. Oui, donc, la procréation, c'est l'amour. Ah, voilà, c'est vrai. Alors, j'ai ça. Puisque dans la vie affective, c'est ce point-là. Oui, alors, je reprends. Et je vais univoquement. C'est ça qu'on appelle un système. Le système, c'est vous appliquer comme ça, bêtement. Parce que c'est pas très intelligent, vous comprenez. Vous ne regardez plus l'originalité de la vie sensible. Si vous regardez l'originalité de la vie sensible, vous voyez que la division n'est plus la même. Quelle est la première division de la vie sensible? Une fois vous aurez fait les analyses propres, vous pourrez regarder les analyses, vous pourrez faire les analogies. Mais l'analogie vaut quand on a déjà découvert. La méthode analogique n'est pas une méthode de découverte. C'est une méthode qui permet de mieux découvrir l'ordre des choses, les rapports des choses. Mais ce n'est pas une méthode de découverte. La méthode de découverte, c'est l'induction. C'est l'induction. Il n'y en a pas 36. C'est là où vous voyez quelqu'un est intelligent. Quand il arrive à dépasser la description et d'analyser. C'est l'analyse qui est quelque chose de capital. Alors, la vie sensible, je regarde d'abord toute ma vie sensible. Ma vie sensible, c'est quoi? C'est les sensations. Les sensations, elles sont multiples. Ma vie sensible, ma connaissance sensible, il y a les sensations propres. Il y a les sensations des sensibles communs. Et puis, c'est déjà beaucoup commun. Puis il y a les imaginations, et puis il y a la mémoire, et ainsi de suite. Tout un monde. Alors est-ce que la mémoire c'est la croissance? Est-ce que c'est l'imagination c'est la croissance? Si j'ai le premier schéma, ça ne va plus du tout. D'abord décrivez. Il faut d'abord décrire. Et la découverte, c'est d'être attentif à tout ce qui se passe en moi. Je peux faire un examen de ma vie sensible. Puis qu'est-ce qu'il y a? Il y a les passions. Ah oh. Les passions, ça fait partie de la vie sensible. Oui, sûrement. Et les passions, c'est multiple. C'est tout à fait autre chose. Donc, la première distinction que je vais faire dans ma vie sensible, c'est la connaissance et l'affectivité. Et ça, dans ma vie végétative, je n'ai pas fait. Ah oui, on dira, mais l'instinct, c'est... Oui, c'est vrai. Il y a quelque chose d'analogue. Il y a bien l'instinct qui est affectif dans ma vie végétative. Et puis, il y a la structure de ma vie végétative. Oui. L'instinct, il y a un instinct. J'ai faim. J'ai besoin de manger. Alors, le besoin de manger, est-ce que ça fait partie de la vie végétative? Ou est-ce que c'est quelque chose de plus radical? L'analyse de ma vie végétative, c'est pas d'analyser l'instinct. Il y a un appétit. Un appétit, sans un appétit instinctif. On n'a jamais appris un gosse à manger. Comme un animal. Et l'animal broute davantage et mieux. Le gosse, il faut un tout petit peu l'aider. Mais autrement. Il se nourrit du lait maternel instinctivement. L'instinct fait une partie de la vie végétative. Oui, radicalement. Ah. Donc, il y a l'analyse des opérations. Puis, il y a quelque chose de plus fondamental. L'appétit naturel. L'appétit naturel. L'appétit instinctif. regarde la vie sensible, je vois toujours sensation, passion. Je retrouve bien quelque chose comme ça. Il y a un appétit naturel. Et l'appétit naturel est dans l'ordre végétatif, ce qu'est la passion dans l'ordre sensible. Ah. Au-delà de la distinction des trois, il y a quelque chose de fondamental qui est l'appétit. Or, l'appétit naturel, c'est l'appétit de la nourriture et l'appétit sexuel. Donc, il y a bien au niveau de l'analyse de la vie végétative quelque chose d'analogue de la connaissance et des passions. Oui, ça s'éclaire mutuellement. C'est ça qui est très intéressant. Et ça, c'est le propre de l'analogie. Mais il faut d'abord analyser. Or, ma vie sensible, je peux tout de suite découvrir les sensations. Les sensations, ce n'est pas les passions. Mais les sensations éveillent les passions. Ça, c'est sûr. J'aime passionnément le rouge de la rose. Ça peut arriver. J'aime tellement passionnément ça, c'est que je vois tout à travers le rouge, le pourpre de la rose. C'est ça la passion. Quelqu'un qui est passionné pour la tulipe, hein, ça arrive ça, il y a des pays qui sont passionnés pour les tulipes. Il y a la foire des tulipes. Alors, la tulipe fait que, à travers la tulipe, je vois toutes les autres réalités. Et je les vois en fonction de la tulipe. Il y a les petits-fils de la tulipe et les grands-pères de la tulipe. Il y a toutes les générations. Je vois tout à travers ça. Ça, c'est la passion. Ah, tiens, c'est curieux. La passion unifie affectivement. Mais si je fais beaucoup d'attention, je verrai que la tulipe a quand même des avantages, c'est qu'elle permet de voir certaines sensations, certaines couleurs plus vives, plus nettement. Mais c'est ça qui me passionne. En réalité, la tulipe, oui, très bien, c'est parce qu'elle me donne ça. Alors vous voyez que je peux tout de suite distinguer la passion, l'ordre passionnel, et l'ordre des structures, des spécifications de la connaissance. Ma vie sensible me met tout de suite en face de cette grande distinction et capitale au point de vue de la vie. La connaissance et découvert ça au niveau sensible. Je dis, mais c'est curieux. Dans la vie végétative, il y a quelque chose d'analogue. L'appétit naturel. L'instinct. L'appétit naturel. Et puis, les structures des diverses opérations. Nutrition, croissance. À l'intérieur de l'appétit. Il y a un appétit naturel de la croissance. Il y a un appétit naturel au niveau vie végétative, de la nourriture, de la boisson. Vous voyez ? Alors, les distinctions s'éclairent mutuellement. C'est là où on voit les intuitions qu'on peut avoir. Mais il faut d'abord découvrir la distinction première de chaque niveau de vie. Alors la distinction première au niveau de la vie végétative, au niveau de la vie sensible, c'est la connaissance et l'affectivité. Pourquoi vais-je d'abord analyser la connaissance? C'est parce que la vie affective présuppose la connaissance. Qu'est-ce qui éveille mes passions? C'est les sensations. On sait très bien. On met des affiches. Pourquoi? Pour éveiller les passions. Et en éveillant les passions, on ouvre le portefeuille. On achète. On sait très bien ça. Mais ce n'est plus la vie sensible. Ça fait partie d'une vie particulière, le commerce. Est-ce que le commerce fait partie de ma vie? Ou est-ce que c'est déjà le commerce? C'est la communauté. C'est le fondement politique. Oui, c'est très important de pouvoir découvrir dans les diverses opérations. Dans ma vie sensible, ça va pas. C'est pas ma vie sensible, le commerce. C'est un art particulier, très particulier. C'est l'art de faire ouvrir le portefeuille de quelqu'un, ou son carnet de chèques, peu importe. C'est cet art-là. Vous séduisez. Une fois que les gens sont séduits, l'argent ne compte plus. Mais c'est une opération tout à fait différente. Ce sera dans la vie spirituelle. Mais dans ma vie spirituelle, ce qui est le moins spirituel. Mais c'est quand même ma vie spirituelle. C'est pas ma vie sensible. Qu'est-ce qui caractérise la vie sensible? C'est d'être une vie qui implique la connaissance. Le premier moment de la connaissance, c'est les sensations. Connaître, selon l'ordre génétique, ce qu'est la connaissance, je regarde les sensations. La sensation, c'est une connaissance. Et le premier moment de la sensation, le premier moment de la connaissance, c'est vraiment les sensations. Et je vois que les sensations sont multiples en moi, sont diverses. Je regarde, j'entends, je touche, je goûte, je sens. Il y a 5 diversités des sensations. C'est la première chose que je vois. Après avoir distingué sensation et affectivité, vous voyez, vous avez toujours l'unité et la diversité. Ces 5 sensations, ce sont des sensations. Donc il y a une unité. Et elles sont diverses. Et chacune a son caractère propre. Autre chose, toucher. Autre chose, voir. Autre chose, goûter. Y a-t-il dans les sensations, alors il faut d'abord les analyser, puis après je me pose la question, y a-t-il parmi les sensations une sensation qui est première? Est-ce que c'est le toucher? Est-ce que c'est la vue? Est-ce que c'est l'ouïe? Donc ça c'est une question très importante qu'on va voir après. Faut d'abord regarder ce que c'est que la sensation. Oui, mais ce serait quand même important de savoir quelle est la sensation qu'il faut étudier en premier lieu. Quelle est la sensation qui, pour moi, est la plus sensation, ah, la plus lucide? C'est celle-là qu'il faut regarder. Est-ce que c'est le toucher? Toucher, c'est toujours très obscur. Je peux toucher dans les ténèbres. Et je peux rester dans les ténèbres tout en touchant. Le toucher est un sens très réaliste. Et la lumière, c'est la vision. Et donc, faut-il commencer par le toucher? Faut-il tenter de commencer par la vision? C'est les deux extrêmes que je peux tout de suite. Oui, il y a d'abord une phase de description. J'étudie ces choses-là dans leur diversité, telle que j'en ai l'expérience. Et je vois très bien qu'au fond, le toucher est commun à tous les sens. Il y a toujours un certain toucher. Il est fondamental. Tandis que la vision, elle est un peu ultime. Alors, est-ce que c'est la vision qui est ultime ou est-ce que c'est l'ouïe ? Certains diront que l'ouïe est un sens bien plus élevé que la vision. Parce que c'est écouter la voix de l'homme. C'est vrai, c'est pas l'ouïe, j'écoute la voix. Et toutes les nuances de la voix. Le roucoulement de l'ami, la voix. De petites colombes, vous savez, qui passent leur nuit à roucouler. C'est extraordinaire. Et au bout d'un certain temps, ils ne se regardent plus. La vision, la nuit, a l'avantage qu'on ne fait que roucouler. Alors est-ce que c'est plus un sens plus humain, l'ouïe, que la vision ? Ou est-ce que c'est le toucher ? Oui, je m'aperçois que c'est très difficile. Je suis dans une diversité de sensations qui, chacune, ont quelque chose d'unique. Alors, je peux regarder l'ordre de mes sensations différemment. L'ouïe est plus affectif. Et la vision et plus la lumière, la détermination, plus intellectuelle. Le toucher est plus affectif. Tiens, il y a donc un lien entre l'ouïe et le toucher. Il y a un lien entre la vue et le toucher. Oui, tout ça, c'est de l'ordre de la description. Mais c'est très important. La phase descriptive, ce qui manquait complètement dans la scolastique. La phase descriptive, aujourd'hui, est capitale. Parce que tout le monde la comprend. Oui, tout le monde comprend ça. Je suis tout près de l'expérience. Et je décris ça. C'est très important, ça. Et quand il s'agit des sensations, cette phase descriptive, elle est quasi infinie, hein. Je peux décrire indéfiniment ce que représente le toucher. Vous voyez ces descriptions très étonnantes d'aveugle. Des descriptions qui remontent le fleuve en aveugle. Alors, c'est uniquement le toucher, le vent. Vous connaissez le vent par le toucher. Il y a des personnes qui aiment énormément le grand vent. Au moins, ça ne sent pas l'enfermer. C'est quelque chose d'extraordinaire. Puis il y a des gens qui fuient le vent. Oh là là là, il y a du vent. On ne peut pas sortir. Oui. Très curieux. C'est le toucher, ça. C'est pas la vision. Oui, on voit bien les arbres qui bougent, c'est sûr, mais ça, c'est pas ça qui est intéressant. Ça ne me fait pas connaître du tout ce que c'est que le vent. En voyant les arbres qui se mettent, je suis dans les sensibles communs. Tiens, voilà la distinction que je vais faire tout de suite. Les sensibles communs, les sensibles propres. Là encore, c'est descriptif. Mais c'est capital. Comme s'il y a du vent, parce que je vois les arbres qui bougent. Oh, quel vent extraordinaire. Il n'a jamais le roseau qui penche et le chêne qui reste debout et qui tout d'un coup est déraciné. Et le roseau jamais déraciné. Oh, c'est curieux. Parmi les êtres humains, il y a des chênes et il y a des roseaux. C'est curieux. Mais ça ne veut pas connaître ce que c'est que le vent. Le vent, pour le connaître, il faut le toucher. Le toucher au visage. C'est le visage. Si vous mettez des tas de choses autour de votre corps, vous n'entendez plus du vent. Alors, il faut décrire d'abord ce qu'est la sensation, la diversité des sensations et ce qu'il y a de commun entre ces diverses sensations. Alors, on distingue les sensibles propres des sensibles communs. C'est une première distinction capitale. Alors, est-ce que cette distinction est le fruit d'une analyse ? Oui. D'une analyse du comment. Qui arrivera à une analyse beaucoup plus profonde, parce que lorsque je voudrais savoir ce que c'est que le toucher, je ne regarderai pas les sensibles communs. Je prendrai le sensible propre. Quand je voudrais savoir ce que c'est que la vision, je ne regarde pas les sensibles communs. Je regarde les sensibles propres. Parce que le sensible commun ne me fera jamais connaître ce qu'est telle sensation. Il fait connaître ce qu'il y a de commun dans les sensations. Alors, on aborde maintenant, et ce qu'on verra la fois prochaine, qu'est-ce que c'est que la sensation. Et pour cela, je vais d'abord étudier la vue, le toucher. Je pourrais commencer par le toucher. J'aime mieux de commencer par la vision. C'est plus clair.